RCF. Bonjour à toutes et à tous, par Toutatis, par Bélénos, vous les aurez reconnus, il s'agit d'Astérix et Obélix, ils seront au cœur de cette émission. On va parler de bande dessinée pendant cette émission, mais sous un autre angle. Alors, que devient la bande dessinée aujourd'hui? Comment se porte le secteur économique de la bande dessinée qui est considéré aujourd'hui comme le 9e art? Alors, si on prend le Festival international de la bande dessinée d'Angoulême, qui est le plus grand événement consacré à la BD en Europe et qui attire chaque année des centaines de milliers de visiteurs, mettant en lumière l'engouement constant pour ce médium, eh bien, il n'y a pas à dire, aujourd'hui, la bande dessinée se porte bien. Les auteurs, les artistes de bande dessinée bénéficient d'une reconnaissance et d'un respect croissant, tandis que les éditeurs, eux, cherchent à innover et à explorer de nouveaux formats. Cependant, le secteur fait aussi face à des défis significatifs, et je pense particulièrement à la numérisation et à l'évolution des habitudes de consommation qui posent la question de la pérennité des modèles économiques traditionnels de la diffusion et de la distribution de la bande dessinée. Les plateformes numériques offrent en effet de nouvelles opportunités de diffusion, on appelle ça les webtoons, et de monétisation, mais elles entraînent aussi une fragmentation du marché, une concurrence de plus en plus accrue, et par ailleurs il est à noter que la rémunération des auteurs de bande dessinée est aussi un sujet de préoccupation majeur, puisque beaucoup d'entre eux expriment leur difficulté à vivre de leur art. Mais n'est-ce pas le principe même de l'art? Certains gagnent beaucoup d'argent, d'autres moins. Van Gogh n'a rien vendu et Picasso n'a pas arrêté de faire fortune. Donc face à ces enjeux, le secteur de la bande dessinée en France est à un carrefour. Les initiatives se multiplient afin de soutenir les créateurs, favoriser l'innovation, adapter l'industrie aux nouvelles réalités du marché. Et cela, ce sera crucial pour son avenir. Malgré les défis, la bande dessinée reste un domaine dynamique, évolutif, reflet d'une société qui valorise la créativité, l'expression artistique et le patrimoine culturel. Son avenir, bien que incertain, est plein de promesses portées par la passion des auteurs, des éditeurs, des lecteurs qui continuent à faire vivre ce médium unique. Bienvenue dans l'Écho des Solutions.
L'Écho des Solutions, Patrick Longchamp.
Voilà, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'Écho des Solutions. C'est les vacances dans presque toute la France, alors j'ai décidé de vous emmener en balade cette semaine. Je vous emmène à la Citéco, c'est un musée dédié à l'économie qui se trouve à Paris, dans le 17e arrondissement, place du Général Catroux, pour être très précis. Et ce musée consacré à l'économie a développé, pour jusqu'à la fin des vacances de Pâques, une exposition temporaire autour de l'économie, mais l'économie au travers des albums de bande dessinée d'Astérix et Obélix. Et avec nos deux invités, Didier Panasonic ou Didier Passanomic, je crois que c'est plutôt cette seconde version qui est la meilleure, Didier Passanomic et Philippe Gineste, nous allons évoquer cette exposition, mais on va aussi évoquer le musée et un atelier qui a lieu toutes les semaines, le mercredi et tous les jours pendant les vacances, où on apprend aux enfants à fabriquer des billets. Et je vous rassure, ce sont des faux billets pour la bonne cause, leur faire comprendre comment fonctionne le système monétaire et comment on peut fabriquer des billets. Bref, vous allez le constater, c'est un écho des solutions de vacances que je vous propose. On commence tout de suite avec notre invité écho de cette semaine, c'est le directeur de ce musée de la Citéco, c'est Philippe Gineste qui nous présente son musée.
L'invité écho, Patrick Longchamp.
Voilà, je suis donc avec mon invité écho de cette semaine, Philippe Gineste. Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. On va évoquer avec vous la Citéco, hein, la Citéco dont vous êtes le directeur général depuis quelques années. Vous avez dû passer d'ailleurs la grosse première partie de votre année à gérer le Covid et l'ouverture. Mais ça, c'est de côté, on va parler de l'avenir. Parlez-nous un petit peu de cette Citéco. C'est un musée dédié à l'économie. C'est extrêmement original d'avoir un musée dédié à une part. Est-ce que c'était un petit peu le pendant de la Cité des Sciences? On s'est dit, il faut une cité de l'économie et on va créer Citéco.
Alors en fait, vous avez une volonté de faire en sorte que la, les sciences, le savoir soient mis à disposition des publics et de façon différente de ce que l'on peut faire avec des livres ou des reportages. Et vous avez de nombreux lieux qui ont ouvert autour des sciences en général, dans lesquels on peut jouer, toucher, manipuler pour mieux comprendre des contenus scientifiques. Mmh. Et il se trouve que jusqu'à présent, la science économique n'avait pas de lieu de ce type-là. Et pourtant, la science économique est partout. Et comprendre le fonctionnement de l'économie, c'est comprendre le fonctionnement de nos sociétés. Et si on passe à côté, finalement, on peut passer notre vie sans comprendre le fonctionnement de nos sociétés, ce qui est quand même un petit peu embêtant.
Alors, autant les sciences sont très expérimentales, on peut tester des choses. Comment est-ce qu'on arrive à rendre ludique quelque chose qui est aujourd'hui très immatériel, à part peut-être le billet et la monnaie sonnante et trébuchante qu'on peut avoir au fond de sa poche?
Parce qu'en fait, derrière ce savoir scientifique en économie, y a des connaissances, il y a un corpus de connaissances, et tout notre enjeu, ça a été de définir comment faire en sorte que ça soit plus facilement appropriable par tous les publics, pas uniquement l'expert, mais la famille, les scolaires, les lycéens, et de faire en sorte qu'on leur propose des dispositifs dans lesquels on peut toucher, jouer, manipuler. Et ça, c'est le rôle des experts en muséographie de construire ces dispositifs. Et ça passe par... par des jeux. Et par exemple, on a un jeu sur les échanges et la monnaie. Mm-hmm. Ça paraît un petit peu bizarre comme ça, un petit peu abstrait. Et on a des... Vous êtes un oiseau. Et en tant qu'oiseau, vous avez des fruits. Mais vous voulez d'autres fruits. Donc il faut échanger avec d'autres oiseaux. Mais il faut échanger en fait avec un oiseau qui veut bien de votre fruit à vous. Mm-hmm. Et donc en fait, vous êtes dans une phase de troc dans cette partie du jeu, et c'est pas simple parce qu'il faut trouver le bon oiseau qui va avec vous. Et au bout d'un moment, dans le jeu apparaît la monnaie, et ça paraît tout bête, mais en fait, grâce à cet intermédiaire de l'échange qu'est la monnaie, vous n'avez plus besoin de matcher avec un oiseau. Vous allez acheter les fruits que vous voulez et vous vendez votre stock de fruits, et là vous apercevez que c'est beaucoup plus facile d'échanger. Et c'est un petit jeu qui est très ludique, qui dure quelques minutes, et on explique l'intérêt qu'est l'intermédiaire de la monnaie dans les échanges.
Mmh. Alors, c'est extrêmement ludique. Et puis, l'économie, on l'aborde finalement depuis toujours. Alors, on aborde bien évidemment dans nos cours, mais rien que le fait déjà de jouer au Monopoly peut-être aborde une question de l'économie. Avoir une cité de l'économie, ça veut dire quoi aussi au plus large? Est-ce que ça veut dire aussi aller chercher des publics qui ne s'intéresseraient pas à ces questions-là? Comment on fait venir les publics jusqu'à la cité co?
Ça dépend des sujets en fait. Un lieu comme nous qui effectivement se rapporte un petit peu aux grands équipements que sont la Cité des Sciences, Palais de la Découverte, etc., où on fait venir les publics d'abord en réfléchissant à quels sont nos publics. Et nos publics, ils sont différents. Il n'y a pas un seul public. Vous avez le public scolaire, et donc vous allez faire des choses qui sont en lien avec les programmes et dans les attendus des programmes. Vous avez les publics familiales qui vont rechercher un temps de vie en commun peut-être aussi de la transmission au sein de la cellule familiale. Vous avez le public intéressé, semi-expert. Vous allez lui procurer des saisons culturelles avec des rencontres, des conférences, des débats, temps forts avec des experts qui leur permettront de poser directement leurs questions à eux. Mmh. Donc en fait, vous avez toute une typologie de public, et notre rôle, c'est de pouvoir répondre à tous ces publics différents avec des activités qui évidemment sont différentes. Vous n'allez pas faire quelque chose pour un enfant de 6 ans
de la même
qui
manière
soit adapté que pour l'expert ou l'étudiant en Sciences Po, quoi. Mmh.
Alors je regardais votre site internet. Votre site internet est un parcours en lui-même aussi, parce qu'il y a énormément de matière. C'est-à-dire que si on ne se déplace pas jusqu'à la Cité Éco, on a déjà la Cité Éco sur le web en quelques pages.
On peut apprendre des choses sur l'économie. On a beaucoup de contenu effectivement, et c'est tout simplement parce que le principe d'un établissement, c'est d'être établi, et il est établi quelque part. Nous, on a la chance d'avoir un bel établissement qui est un monument historique, qui est superbe. Mais il se trouve quelque part à Paris, et tout le monde n'habite pas Paris ou sa proche ou lointaine banlieue. Et donc, ce n'est pas tous les jours facile pour une grande partie de nos concitoyens de pouvoir être à proximité de Cité Éco et de bénéficier de nos activités. Et il nous a semblé tout à fait naturel de proposer au public géographiquement éloigné la possibilité de bénéficier de nos productions grâce aux outils numériques dont on dispose avec Internet. Mmh. Donc effectivement, alors, ça ne remplace pas une visite du musée qui est aussi une expérience de vie en soi. Mais ça permet aussi d'apporter des supports qui sont très largement utilisés, notamment dans le cadre scolaire. Mmh.
Philippe Ginest, on est ici dans l'hôtel Gaillard, qui fut une succursale de la Banque de France. Le lieu était tout trouvé. D'abord un banquier qui n'officiait pas dans cet hôtel comme une banque. Puis après une succursale de la Banque de France. Aujourd'hui, une Citeco. Finalement, cet hôtel a toujours été consacré. Il a une architecture très particulière. On ne s'attend pas à voir un musée derrière cette façade très moyenâgeuse.
Alors effectivement, vous avez raison, c'est la troisième vie architecturale du bâtiment. Il a été voulu par un bonhomme qui s'appelait Émile Gaillard. Il était banquier de son état, mais il l'a voulu pour y habiter. En fait, c'était sa demeure. Il avait des moyens et on est au 1880 et il a fait fortune dans le développement de l'industrie. Mais il était surtout amoureux des arts et des lettres et il avait pour client Victor Hugo, par exemple. Il avait été élève de Chopin et il avait collectionné de nombreuses œuvres de peinture, de sculpture, des tentures. Il était notamment amoureux de la fin du Moyen-Âge, du début de la Renaissance. Et ayant des moyens, il a eu la chance de pouvoir réserver un lot important à côté du parc Monceau pour construire un château fantasmé, en fait, début Renaissance. Et c'est le château de Blois dont son aile Louis XII qui a été l'inspiration principale. Et Émile Gaillard, en fait, il l'a fait pour y vivre et présenter les collections qu'il avait réussi à accumuler. La Banque de France en a fait l'acquisition après la Première Guerre mondiale pour en faire une succursale. À l'époque, la Banque de France avait une activité commerciale comme une banque commerciale d'aujourd'hui. Et donc n'importe qui pouvait ouvrir un compte à la Banque de France. Cette activité commerciale, la Banque de France l'a fait fonctionner jusqu'au début des années 2000. Et à ce moment-là, elle a considéré que c'était plus nécessaire d'avoir cette activité. Et donc elle s'est défaite de l'essentiel de son réseau partout sur le territoire national. Mais cette succursale, c'était la plus belle de tout le réseau. Et il a été décidé de la conserver et de la transformer pour en faire un lieu éducatif et culturel, d'où cette troisième vie qu'est devenue Citeco aujourd'hui.
Et puis alors avec un endroit assez exceptionnel dans ce musée, finalement, c'est le coffre-fort de cette Banque de France qui est un endroit à la fois atypique, déjà de par la façade, on n'a pas l'impression qu'on va trouver un coffre-fort derrière cette façade, et en même temps, ça en fait finalement le cœur même, la pièce secrète, la pièce magique de cette Citeco, Philippe Ginest.
Oui, c'est vrai, en fait, la Banque de France, quand elle en a fait l'acquisition, elle a construit dans le bâtiment un second bâtiment. À l'époque, il y avait une cour à l'intérieur, et cette cour a été comblée pour faire une salle des coffres avec près de 4000 coffres qui la composent, et au-dessus une salle qui recevait le public, une salle des guichets. Mmh. Et en fait, cette salle des coffres, elle est entourée par des douves mises en eau, protégée par un pont basculant. C'est comme un château dans le château, finalement. Et d'un point de vue architectural, c'est quand même absolument atypique et étonnant. Et aujourd'hui, on présente des collections somptueuses qui permet de montrer l'histoire des moyens de paiement, des premières monnaies, des crécéides de 2700 ans avant notre ère, avant aujourd'hui plutôt, jusqu'aux moyens de paiement numériques actuels. Mmh. Et donc on explique un petit peu l'évolution de toute cette histoire.
C'est combien de visiteurs par an aujourd'hui la Citeco, Philippe Ginest ?
Alors en 2023, on était un peu plus de 90 000 visiteurs, ce qui est dans les objectifs qu'on s'était donnés.
Et pour l'avenir, là, quelles sont les ambitions pour cette Citeco ? Démultiplier, évidemment, le nombre de visiteurs. Mais il y a d'autres projets qui sont dans les cartons, au-delà des expositions temporaires qu'on va visiter là, d'ici quelques instants.
Alors, l'ambition, c'est de déployer des saisons culturelles. Parce que lorsqu'on parle d'économie, on parlait un petit peu de l'histoire du monde, finalement. Et nos murs ne sont pas extensibles, ce qui fait que dans notre exposition principale, il a fallu faire des choix. Et donc on est sur les fondamentaux de l'économie, mais parfois il y a des sujets qui sont abordés de façon plus lilliputienne et mériteraient plus de place. Ce qui fait que tous les ans, en fait, on développe une saison culturelle qui permet d'aller plus en profondeur sur certains sujets. Cette année, par exemple, on évoque la consommation avec une saison qu'on a appelée « Vices et vertus de la consommation ». puisque la consommation est un moteur essentiel pour le développement économique et pour l'enrichissement des biens par les biens et services des personnes. Mais en même temps, il y a des externalités négatives avec un accès aux ressources, des pollutions, une forme de fonctionnement économique qui peut-être atteint certaines limites. Mmh. Et donc on prend une année comme ça pour faire des conférences, des débats, des rencontres, voire des colloques pour parler de ces sujets-là. L'année prochaine, à partir de septembre, on aura pour saison culturelle comme fil rouge la question du travail qui est au cœur de l'activité économique. Vous voyez que le travail est au cœur de l'actualité, hein, que ce soit pour le monde Absolument. Paysan, pour la rémunération, pour le financement du modèle social. Et ça permet vraiment d'aller au fond des choses.
Merci beaucoup Philippe Gineste pour ce temps que vous nous avez accordé. On vous retrouve d'ici quelques instants, le temps d'aller retrouver votre autre partenaire pour nous présenter cette exposition économie autour de l'œuvre d'Astérix et Obélix, de l'œuvre d'Uderzo et de Goscinny et de ceux qui ont pris leur suite bien évidemment. On retrouve tout de suite la chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Nous on se retrouve tout de suite après.
Pour une économie du bien commun, la chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens, Maxime Pavlak.
Et cette semaine, c'est le tour de Maxime Pavlak pour la chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Bonjour Maxime.
Bonjour Patrick.
Alors vous êtes un entrepreneur du monde agricole à travers votre structure Eloi qui œuvre pour le renouvellement des générations agricoles et la transition vers des pratiques plus durables. Quel a été votre regard sur le mécontentement du monde agricole et des agriculteurs, Maxime ?
Alors d'abord, Patrick, moi je suis heureux qu'on remette sur la table la question du revenu des agriculteurs, parce que le pouvoir d'achat, le pouvoir de vivre de son travail, c'est une question de dignité, et on ne renouvellera pas les générations agricoles sans revenu décent. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup d'agriculteurs qui sont coincés dans un système vraiment absurde dans lequel ils n'ont pas la maîtrise de leur prix de vente et ils subissent en plus l'augmentation de leur coût de production. Voilà, cette situation, elle est évidemment impossible à tenir sur la durée. La loi Egalim, elle voulait faire évoluer ce rapport de force, mais dans les faits, c'est très compliqué à appliquer.
Alors finalement, le gouvernement a fait donc machine arrière sur l'environnement, notamment sur les objectifs de réduction de pesticides. Doit-on en conclure que l'ambition de transition n'est pas tenable dans le secteur agricole, Maxime ?
On en conclut surtout que c'était là où se trouvait le cadeau le plus facile à faire aux agriculteurs et puis qui ne coûte rien à court terme, mais qui, enfin malheureusement, hypothèque l'avenir. Hein. C'est faux, il n'y a pas d'impossibilité technique et profonde à la transition, par exemple à réduire l'usage des pesticides. Seulement, il y a de la résistance au changement à tous les niveaux de la chaîne. Si on prend au niveau des coopératives agricoles, par exemple, j'en discutais la semaine dernière avec un ancien directeur d'une grosse coopérative. Pour une grosse partie d'entre elles, il faut savoir qu'une bonne partie de leur marge se fait sur la vente des pesticides et des engrais. On comprend du coup que l'enjeu existentiel du secteur soit de réduire les pesticides. Quand on est poussé à réduire ses usages, il y a des freins qui sont mis partout.
Qu'est-ce que ça veut dire, Maxime ? Ça veut dire aussi qu'il y a de la concurrence des pays moins disants en normes environnementales ?
Oui, c'est vrai. On parle beaucoup de ces déséquilibres liés au libre-échange, qui est réel, avec ces produits qu'on importe et qui n'appliquent pas les mêmes normes. C'est un vrai sujet, il faut l'adresser, mais il faut l'adresser avec des mesures miroirs, pas en abaissant nos propres standards. Et puis face à cette concurrence des moins-disants, nos agriculteurs devraient être plutôt contents que l'Europe tente de rehausser les standards de production partout en Europe, parce que ça va réaligner certaines contraintes au niveau européen. Or, c'est le discours inverse qui est tenu en accusant le Green Deal, qui d'ailleurs n'est même pas encore en application, alors que, au contraire, ça devrait faciliter les choses pour nos agriculteurs français.
Ah, au final, c'est le consommateur qui refuse de payer plus cher ses produits alimentaires, donc difficile pour le secteur de changer.
Moi, je suis convaincu que le consommateur ou une bonne partie des consommateurs sont prêts à payer quelques centimes de plus pour soutenir les agriculteurs. D'ailleurs, le succès de marques comme C'est qui le patron le démontre. Mais il faudra quand même prévoir des systèmes pour compenser les coûts de la transition pour ceux qui ont le moins de moyens financiers. Et à ce sujet-là, des expérimentations comme la sécurité sociale alimentaire sont hyper intéressantes. Je rappelle quand même que sur la question du pouvoir d'achat alimentaire, l'explosion récente des coûts est principalement liée à l'augmentation des coûts de l'énergie et des intrants chimiques. Notre système actuel de production à bas prix, il est largement biberonné par un pétrole pas cher. Donc on sait qu'il va falloir transitionner vers autre chose, on n'a pas le choix, y compris pour préserver notre pouvoir d'achat. Donc le pétrole, pour moi, C'est d'ailleurs pas la seule raison, hein. L'augmentation des températures, les pénuries en eau font que la productivité de l'agriculture conventionnelle va de toute façon continuer à baisser. C'est le cas depuis maintenant de nombreuses années en France. Et du coup, l'agriculture plus résiliente sur des sols vivants, qui a besoin de moins d'eau, qui est plus résiliente face aux aléas climatiques, deviendra plus rentable. Et en fait, il faut anticiper ces changements. La question, comme souvent, c'est de savoir si on veut prendre notre part dans ce changement ou laisser la bombe alimentaire aux générations futures.
Merci beaucoup, Maxime Pavlak, de nous porter ces questions. Encore faut-il avoir des solutions. Des solutions, on en amènera très certainement dans notre émission dédiée au Salon de l'Agriculture. Nous, on retrouve tout de suite, d'ici quelques instants, on retrouve nos deux invités pour évoquer au cœur du musée La Cité Éco, cette exposition dédiée à l'économie au travers des albums d'Astérix et Obélix. En attendant, je vous propose de faire une pause musicale dans l'écho des solutions. On se retrouve tout de suite après. Merci beaucoup, Maxime. À très bientôt. Au revoir.
On voit encore des gens qui marchent au bord des fleuves, alors que les bombes pleuvent, qui font un bouquet de fleurs dans nos revoirs, qui laissent au matin une chance pour le soir.
On voit parfois des gens qui flânent sur les trottoirs, qui malgré les lumières essaient de voir. Et une étoile filante qui traverserait le noir, et une étoile filante qui serait la leur ce soir. Qui cherche à entrevoir au milieu de ce grand désespoir le courage, l'envie d'être honnête et la beauté d'être à part. Le courage, l'envie d'être honnête et la beauté d'être à part. On voit tellement de gens qui hésitent et qui doutent, et si c'était pas la bord de cette route. On voit encore des gens là-haut sur la montagne, malgré les orages et la tramontane, qui essaient d'entrevoir au milieu de ce grand désespoir le courage, l'envie d'être honnête et la beauté d'être à part.
Pourrait-il entrevoir au milieu de ce grand désespoir le courage, l'envie d'être honnête et la beauté d'être à part?
L'amour dérange, qui refuse la vie et ses beaux mélanges. Et s'il y avait quelqu'un là-haut dans l'univers qui nous regardait se regarder de travers.
Il reste quelques heures avant la fin du jour, et si l'on partait juste faire un tour, juste toi et moi là aux alentours, on pourrait peut-être tenter le détour
pour peut-être entrevoir au milieu de ce grand désespoir le courage, l'envie d'être honnête et la beauté d'être à part. Le courage, l'envie d'être honnête et la beauté d'être à part.
C'était Gaëtan Roussel, La beauté d'être, tiré de son album Éclectique. Nous, on pousse tout de suite les portes de l'exposition autour de l'économie à travers les albums d'Astérix et Obélix. C'est notre dossier de l'écho des solutions de cette semaine.
L'écho des solutions, Patrick Longchamp.
Voilà, il est temps d'ouvrir le dossier de l'écho des solutions de cette semaine au cœur de cette exposition dédiée à l'économie au travers de l'œuvre de Goscinny, Uderzo et de ceux et des successeurs hein, qui ont repris la suite, bien évidemment, et au cœur de ces deux héros que sont Astérix, Obélix et tout le village des irréductibles Gaulois. Et je suis avec l'un des trois conseillers scientifiques qui ont permis de construire cette exposition. Avec vous, Didier Passanomi. Avec vous, Didier. On va s'arrêter là. Vous avez un nom très astérixien, c'est ce que je disais.
Oui, oui. Souvent, on dit Passamonix. Enfin, Hergé qui se souvenait pas de mon nom, nous appelait, mon frère et moi, les frères Karamazov. Alors, donc, vous en faites ce que vous voulez, finalement.
On en fait ce qu'on veut. On est avec vous, Didier. Vous êtes un spécialiste de bande dessinée. Vous l'avez mis dans tous ses états. Vous avez été libraire. Vous êtes en même temps scientifique. Vous êtes journaliste. Vous avez vous-même votre propre média podcast pour parler de bande dessinée. Donc vous étiez tout à fait la personne adéquate pour co-construire cette exposition. Si on élargit au-delà de l'univers d'Astérix et d'Obélix, la bande dessinée, c'est vraiment le lieu où on peut aller étudier de manière très libre tous les éléments du tissu social, économique, environnemental, finalement de manière très très libre, non ?
Mais c'est-à-dire que la bande dessinée, bien avant Internet, c'était déjà un média interactif, parce qu'on a l'image, on a le dessin, on a le texte, on a le scénario, c'est des choses très différentes, et finalement, ça rend intelligent de lire les bandes dessinées, parce que justement, on peut décrypter l'image. Aujourd'hui, on est dans une civilisation de l'image, on est abreuvé d'image. Moi, je suis tous les jours sur TikTok. Eh bien, je pense que plus vite on donnera à lire des images aux enfants, à les décrypter, à leur donner des lectures critiques et parfois très différentes, et notamment économiques, eh bien, on améliorera l'intelligence des gens par rapport à tous ces sujets.
Comment on devient conseiller scientifique d'une exposition comme celle-ci, Didier ? C'est le fruit de l'expérience ? Parce que tous les experts en dessinée ne sont pas appelés à devenir des conseillers scientifiques d'exposition. Qu'est-ce qui vous intéresse dans le fait de construire une exposition ?
D'abord, en ce qui concerne Astérix, j'étais co-auteur des archives Astérix pour Atlas. J'ai dû écrire 2 millions de signes sur Astérix, donc je suis un vrai spécialiste d'Astérix. Le week-end dernier, j'étais à Angoulême avec Sylvie Derzo, donc je ne découvre pas Astérix. Et être conseiller scientifique d'une telle exposition, ça permet... C'est très, très intéressant parce que d'abord, ça permet, c'est un outil de médiation, la bande dessinée. J'ai souvent traité des sujets compliqués, un peu délicats, comme la Shoah, par exemple, pour se servir de la BD comme médiateur avec ces matières un peu compliquées. Et puis, surtout, c'est Astérix. Astérix, c'est un univers qui est drôle, qui est connu de tous. Et je pense que pour Citeco, c'était le meilleur moyen de pouvoir intéresser le public à une matière qui, a priori, est un peu rébarbative. Hein. Quand on voit le cours d'économie à l'école, on se dit « oh là là, ça va passer une heure un peu embêtant ». C'est pas le cas ici, puisque on aborde cette matière avec un regard ludique et... Pour moi, ce qui est important, c'est ça, c'est qu'on regarde Astérix, c'est d'abord et avant tout une parodie. Mmh. C'est une parodie d'histoire, c'est une parodie de la société, c'est une comédie. Et c'est cette façon de lire l'économie, ou de lire l'histoire par le rire, c'est aussi une façon de la dédramatiser et de prendre un peu de distance et un peu d'intelligence par rapport au sujet.
Alors moi, je me souviens de mon premier cours d'économie de seconde. Mon professeur commence son premier cours de la première heure. On découvre l'économie avec Obélix et compagnie. C'est quand même l'album qui est le plus centré sur la question économique. Obélix et compagnie, c'est l'entrée du capitalisme au sein du village gaulois. Il y en a eu d'autres. Il y a eu le domaine des dieux. Obélix et compagnie, quand même, reste quand même celui qui très clairement l'écrit et compagnie. Quoi. On crée une société.
Oui, c'est pas nouveau. En fait, quand je dis c'est pas nouveau, il faut savoir que le père de René Goscinny a créé une société qui s'appelait Goscinny et compagnie.
C'est pas fou.
Donc, c'est peut-être que Goscinny, en écrivant le scénario, s'en est souvenu. Je pense surtout que très vite, quand Astérix a commencé à rapporter de l'argent, et beaucoup d'argent, ce qui agaçait les auteurs, c'était justement que les journalistes leur parlaient que de leur fortune et de leur argent, au lieu de parler des albums. Et d'ailleurs, c'est marrant de voir à quel point leurs histoires peuvent avoir un impact. C'est-à-dire que quand on invitait Uderzo et Goscinny à dîner le soir, il y avait invariablement au menu du sanglier. Et donc, et Goscinny s'est dit, la prochaine fois, je ferai une bande dessinée où on ne mangera que du caviar. Comme ça, au moins, on changera le menu.
C'est un peu comme les œufs brouillés de Giscard d'Estaing qui avait eu, avant d'aller faire son tour des dîners français, le malheur de dire qu'il aimait les œufs brouillés et qu'il n'a fait qu'en manger. Dont d'ailleurs Goscinny s'est servi allègrement dans Is No Good pour se moquer dans les cauchemars d'Is No Good, si ma mémoire est bonne.
Absolument.
Comment on conçoit, on est obligé de relire l'intégralité des Astérix et d'Obélix pour construire une exposition? Vous utilisez énormément de thèmes sont utilisés, vous utilisez même les thèmes d'actualité puisqu'à un moment donné on parle de sport.
Bien sûr. Bon, c'est l'année ou jamais.
C'était l'année ou jamais. Comment on fait pour construire cette exposition? Alors vous n'étiez pas seul, il y avait Christian Chavagneux, il y avait Philippe Ginest qui vous accompagnait, les commissaires de l'exposition.
Sûr,
on passe par relire tous les albums.
Les banquiers centraux de la Banque de France, hein. Attendez, c'est des gens sérieux.
Absolument.
Donc, on commence par lire les albums, par essayer de repérer qu'est-ce qui tient de l'économie dans les albums. Et puis, il y a une discussion avec les autres commissaires. Il y a des intentions pédagogiques. Un lieu comme Citeco est évidemment là pour enseigner l'économie, pour intéresser, pour éveiller les visiteurs à l'économie. Et on a simplement essayé de choisir les passages les plus marquants pour faire comprendre comment fonctionne l'économie du village d'abord et ensuite l'économie de l'Empire, sachant que l'Empire romain, c'est une économie de prédation. Faut savoir que les Romains ne payaient pas d'impôts parce que ils vivaient sur la bête de la bête impériale, si je puis dire. Et donc voilà, il y a tout ça. Et puis je dois dire que on a tous relu les albums et on les a redécouverts en fait, parce que s'il y a bien quelque chose comme Astérix qu'on a lu 1000 fois, 10 000 fois, eh bien, les relire avec les lunettes de l'économie, ça redonne un nouveau plaisir à la lecture d'Astérix.
Alors justement, comment vous y êtes pris pour dégager les thèmes? D'abord, dans les albums d'Astérix, est-ce que les fondements de ce qui est dit sur la question de l'économie sont des fondements qui sont vrais ou ce sont des fondements fantasmés? Ou est-ce qu'il y a vraiment, quelque chose qui... alors je suppose que ce que vous avez mis là est vrai parce que vous ne pouvez pas aller, mais est-ce qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'imaginaire aussi dans les relations, dans les bases des transactions qui pouvaient exister à cette époque gauloise entre les Gaulois et les Romains et cette suprématie romaine?
Comme dirait l'autre, tout ce que je raconte est vrai puisque je l'ai inventé d'un bout à l'autre. c'est évidemment, c'est-à-dire que c'est d'abord un exercice d'observation, la caricature. La caricature part toujours du vrai pour la transformer, pour la sublimer, pour lui donner un sens satirique. Donc c'est exactement ça, Astérix. Et il y a du vrai, puis il y a du faux aussi. Aujourd'hui, on sait que les menhirs, c'est une invention celte de 7 siècles avant Jésus-Christ, que ça n'existait pas chez les Gaulois. De la même façon, les Gaulois
ne
mangeaient pas les sangliers. On le sait aujourd'hui, ils élevaient les cochons comme tout le monde. Les sesterces, par exemple, ils échangent des sesterces. En fait, le sesterce n'a cours en Gaule de façon générale qu'un siècle après Astérix, si pour autant si on considère Astérix comme une réalité historique. Donc évidemment qu'il y a une partie fausse, mais après Il y a un regard, et un regard qui change avec le temps. Mmh. C'est-à-dire que le regard sur l'économie qu'ont les auteurs entre 59 et 60 est le même regard que peut avoir Uderzo dans les années 80, c'est pas le même, parce que le monde a changé, parce que entre-temps, il y a l'euro qui est arrivé. Donc, on n'a plus du tout les mêmes préoccupations économiques, de la même façon que si on appliquait les schémas fiscaux de l'Argo Winch, on irait en taule assez rapidement. Donc oui, il y a du vrai du faux. Et ce qui est important, c'est d'apprendre justement un regard critique. Ouais. À la fois sur l'image et en même temps sur l'économie. Il ne faut pas qu'on avale tout ce qu'on nous propose sans un minimum de réflexion.
Alors on va laisser la parole à Philippe Ginès qui est encore avec nous. Philippe Ginès, comment vous avez construit pédagogiquement cette exposition ? Qu'est-ce que vous avez voulu dire au travers de ces 7-8 thèmes, si j'ai bien compté, qui sont abordés tout au long ? On commence par le village gaulois. Parce que si finalement le cœur de vie, le cœur de ville et le cœur économique des albums d'Astérix et Obélix.
Oui, en fait, pour résumer assez rapidement, il y a deux choses dans l'œuvre. Mm-hmm. Il y a ce qui se passe dans le village et ce qui se passe en dehors du village. Ce qui se passe dans le village, c'est un monde complètement fantasmé d'un village où ils font pas grand chose. Il y a deux personnes qui travaillent, on sait pas trop pourquoi, parce qu'il y en a un qui vend des poissons à personne et l'autre il frappe pour fabriquer des objets en fer, mais on sait pas trop à qui. Et tous les autres ne font rien.
Ah, il y a les chasseurs, les chasseurs-cueilleurs.
Ils font pas grand chose, quoi. Mais par contre, voire même il y a de la monnaie, mais ça sert pas à grand chose finalement. Et par contre, dès qu'on sort du village, on est dans le monde romain, et ce monde romain, lui, il est organisé. Il est organisé parce qu'il y a un État. Il y a une armée, il y a des routes, il y a des gens qui travaillent, il y a des levées d'impôts, il y a une administration. En fait, il y a une société qui est organisée et qui ressemble bigrement à notre société à nous. C'est notre reflet. Et on a voulu en fait montrer qu'on peut avoir des idéaux finalement, fantasmer une autre vie, ce qui se passe dans le village gaulois. Mais que inexorablement, la réelle vie nous renvoie à nos contraintes. Nos contraintes, c'est qu'il n'y a qu'une seule chose qui est gratuite, c'est l'air qu'on respire. Le reste, il faut aller le chercher.
Et alors, vous avez tout à fait raison en disant finalement ce lieu de village gaulois est finalement peut-être le lieu privilégié pour rester à l'écart de tout ce tissu économique, de cette société qui vit. Et en fait, tout ce qui arrive dans le village vient le déboussoler, vient déséquilibrer l'organe et la manière de vivre, Didier.
Oui, et puis inversement, c'est vrai aussi. Je pense que quand Astérix et Obélix sortent de leur village, les pirates pourront vous le dire, ils sont un petit peu déséquilibrés eux aussi. Donc, oui, tout est dans un rapport de force. Et au fond, le rapport de force, c'est aussi un des ressorts de l'économie. Entre César, qui veut conquérir ce petit bout de territoire, ce marché, on peut dire, et puis les autres qui ne se laissent pas faire, qui résistent, qui ne veulent pas se laisser absorber par un empire, peut-être qu'ils ne veulent pas payer d'impôts non plus à cet empire.
Oui. Oui, en fait, c'est là le point fondamental, et on l'a quasiment dans l'un des premiers albums, qui est Astérix et le Chaudron, où on voit en fait l'une des raisons fondamentales de la liberté des Gaulois, c'est de ne pas être soumis et donc de ne pas payer l'impôt, de refuser le dictat de la présence romaine. Et ça, c'est extrêmement fondamental parce que c'est le sens de nos sociétés, l'acceptation de l'impôt pour faire société, pour de la redistribution ou des activités publiques qui font corps pour la société. Et finalement, avec par l'absurde, d'une certaine manière, Uderzo et Goscinny remettent la question de l'impôt au cœur de notre construction sociale. Et
qu'ils finiront par ne pas payer, finalement, en définitive.
Oui, ils sont libres.
Ils sont complètement libres. Quels sont les thèmes qui sont abordés ? Donc là, on est face au premier. Alors, vous êtes parti, si j'ai bien compris, la muséographie de l'ensemble. Vous êtes parti par des personnages qui nous disent quelque chose. Là, on est la monnaie et les échanges. On est avec le poissonnier avec ordre alphabétique qui vend du poisson à personne, comme le disait Philippe à l'instant, mais qui vient de loin. C'est-à-dire qu'on a déjà l'opposition entre le circuit court et la grande distribution avec ordre alphabétique.
Oui, c'est un peu paradoxal parce qu'en fait, il achète son poisson alors qu'il a la mer à côté. Hein, il a même un bateau. Hein. mais il achète son poisson à Lutèce parce que ça fait plus chic, et à Massilia aussi. Donc effectivement, c'est ce qui explique pourquoi le poisson n'est pas très frais, parce qu'il vient de loin. Et donc effectivement, c'est un des paradoxes. Et vous imaginez que ce sont des gars qui datent du milieu des années 50, des années 60, pardon, et que déjà, on est sur une réflexion de ce qu'est ce que doit être le circuit court.
Ouais, c'est ça, à l'époque.
Et le fait aussi qu'ils utilisent les voies romaines pour importer le poisson. Donc, il y a tout un paradoxe économique dans cette question.
Je ne sais pas si c'est d'ailleurs pas dans le dernier album où il s'est eux-mêmes de l'odeur, de la bonne odeur du poisson. Je me demandais même s'il n'était pas avarié, parce qu'il avait une odeur qui n'était pas normale, en fait.
Oui,
parce
oui
qu'il était
mais frais. En fait, et puis il y a les enfants d'ordre alphabétique qui eux sont écolos, ouais, et qui se plaignent justement des déchets qu'on déverse dans la mer de façon inconséquente. Mais là on est dans des œuvres un peu plus contemporaines, donc on comprend qu'ils abordent cette question là.
Quelles sont les autres grandes thématiques qui sont abordées au cœur de cette exposition, Didier?
Il y a tout le parcours, il y a neuf.
On va pouvoir peut-être se rapprocher d'un prochain.
Oui, il y a neuf étapes. Hein. On part du village, évidemment. La monnaie des échanges est la première des étapes. Et ensuite, on va parler du travail, on va parler de...
Ouais, on s'approche un petit peu. Le travail, c'est cet automatique, ça, donc celui qui forge des choses pour des personnes qui n'en ont pas besoin, d'ailleurs.
Oui, enfin, ils peuvent en avoir besoin. Des fois,
boucliers,
essentiellement. Oui, des fois, les enclumes. On a besoin du travail artisanal, ne fût-ce que pour fabriquer l'épée d'Astérix. Donc, il est utile dans le village. Mais il y a aussi la question de la nature. Par exemple, le village se trouve à côté d'une forêt où on va aller chasser les sangliers. Donc évidemment qu'à un moment, par exemple, dans le domaine des dieux, César va essayer de détruire cette forêt pour construire un ensemble immobilier dessus. Ça va bouleverser complètement l'économie du village. Donc il y a une vraie... une vraie implication économique, y compris dans les aventures. On va évoquer la piraterie, par exemple.
Ah ouais, la piraterie, j'étais étonné de voir justement les pirates. En quoi les pirates apportent quelque chose à ce que nous dit J'ai vraiment été étonné de voir la notion de pirate. Qu'est-ce qu'ils apportent à la question économique?
On le voit bien avec les outils dans la mer Rouge. Il suffit qu'ils attaquent les bateaux qui passent, et puis ça perturbe complètement l'économie mondiale.
Oui, il faut savoir que Jules César, dans sa jeunesse, a été fait prisonnier par des pirates au sud de la Turquie actuelle. Mmh. Il a été libéré après paiement d'une rançon. Et bien sûr, quand il est devenu Jules César, celui qu'on connaît, il a eu les moyens pour revenir dans la zone et s'occuper des pirates en question. Et les pirates en économie peuvent être vus de deux façons, hein, des contrebandiers, des gens qui se jouent des lois pour faire de l'argent. Et donc on appelle ça l'économie souterraine. Et vous avez aussi, comme Didier vient de le dire, ceux qui utilisent les armes pour faire d'un espace géographique une zone de non-droit, et ainsi développer leur propre pouvoir à eux. Mmh.
La mer est un lieu d'échange, vous le disiez, à la fois ça peut être un lieu de danger, c'est aussi un lieu d'échange. On le voit dans l'Odyssée d'Astérix, avec ce bateau phénicien qui vient, je le vois là-bas au fond, en train d'expliquer d'abord à tous ceux qui rament qu'ils ont payé pour ramer, mais que c'était la manière d'organiser les choses, et puis de tous ces produits qui viennent du Moyen-Orient.
Oui, alors il faut là, d'un point de vue historique, l'Empire romain s'est fait autour de la Méditerranée, hein, c'est Mare Nostrum, la capacité des bateaux pour transporter des marchandises sur de longues distances à des coûts faibles, avec une certaine sécurité finalement, même si peut-être que 5 à 10% des bateaux n'arrivaient pas à bon port, a permis en fait un échange international qui, dans Astérix, est symbolisé par ce marchand phénicien. Mais la réalité et les fouilles archéologiques montrent que les échanges internationaux préexistaient à l'arrivée de Rome dans l'Empire gaulois, dans la zone gauloise, Et finalement, dès que l'homme a eu une sédentarisation, il a montré sa faculté à pouvoir échanger des biens
et des services.
Des services, c'est plus compliqué à l'époque, mais surtout des biens et comme des objets, des objets manufacturés, des bijoux, qui parfois ont fait plusieurs milliers de kilomètres. Mmh. Mmh. Et ça montre en fait que le besoin que nous avons d'échanger pour créer des richesses, c'est un besoin fondamental.
Alors, on est rentré dans cette exposition au cœur, elle est très ludique, il y a des panneaux, j'ai envie de dire, avec plein d'écritures pour les grands et plein d'ateliers. Philippe, est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu tous ces ateliers? Il y a beaucoup d'enfants, de familles qui sont là aujourd'hui, on est un mercredi, donc c'est vrai que c'est le temps privilégié pour les enfants. Qu'est-ce que vous avez voulu dire et faire aux enfants au travers de ces ateliers, cette grande table, ces grandes tentes, etc.?
Alors, pour que l'exposition soit équilibrée, il faut que les publics puissent jouer, interagir avec les contenus qu'on présente. Et donc, vous avez différents dispositifs. Vous avez une table à dessiner, tout simplement, où on propose aux enfants de reproduire les personnages principaux de l'univers d'Astérix. Vous avez un jeu de bataille navale qui... Il y a de temps en temps des batailles navales qui vont très très vite, hein, généralement dans Astérix, puisque Obélix intervient
très rapidement.
mais dans le monde romain, la réalité de la maîtrise des mers était une réalité et un objet politique en soi très important.
Donc là, il y a un enfant et son père, je suppose, qui sont en train de jouer à la bataille navale.
Voilà, tout simplement.
Alors, vous avez la table du banquet aussi.
La table du banquet, alors c'est un jeu dans lequel, en fait, on va se questionner sur l'ensemble de l'univers d'Astérix et répondre à des questions en quiz sur savoir dans quelle aventure arrive telle ou telle histoire.
Après, il y a une jeune fille là, qui est déguisée en Romain. On peut rentrer dans la tente et se déguiser, c'est ça ?
C'est ça, on peut revêtir les habits du légionnaire romain avec casque, armure... et se mettre sur un podium, se prendre en photo avec aussi un magnifique bouclier.
Donc c'est vraiment une construction très, très ludique pour permettre finalement à tous les publics de pouvoir appréhender, s'accaparer cette exposition.
Oui, il faut se mettre à la place de tout le monde. Hein. Quand on va dans un lieu culturel, on a envie aussi de s'amuser, de passer un bon moment familial. Donc leur donner la capacité de pouvoir... se projeter, de se mettre à la place d'eux, de jouer tout simplement. Ça n'empêche pas que après, ils vont regarder des contenus qui sont scientifiques, qui leur sont proposés, et donc ils vont ressortir à la fois avec l'esprit apaisé parce qu'ils auront passé un bon moment, et en plus l'esprit enrichi parce qu'ils auront appris des choses.
Et puis en plus, ils pourront en reparler en famille en rentrant chez eux. Alors nous, on va se diriger maintenant vers la fabrique de billets, puisque c'est un des ateliers que vous proposez ici. Il y a d'autres ateliers qui sont proposés aux enfants, aux familles. On en a parlé un petit peu, mais concrètement parlant, au-delà de la fabrique de billets, il y a d'autres choses qui sont proposées, qui sont interactives, ludiques, pour venir justement se balader en famille à cette Citeco.
Alors oui, de temps en temps, on propose d'autres ateliers. Donc là, il faut aller voir notre programmation sur le site internet de Citeco. Il y a aussi des visites virtuelles, des visites guidées.
Avec un casque de réalité virtuelle, c'est ça ?
Oui, oui.
Donc là, on va pouvoir se balader dans l'univers de l'économie et de la monnaie.
Alors la visite en réalité virtuelle est plutôt une visite patrimoniale, mm-hmm. où on explique l'histoire du lieu et on fait revivre le fondateur Émile Gaillard qui a besoin de retrouver certaines clés qu'il a perdues.
Merci beaucoup Philippe Ginès. Donc on se dirige vers cet atelier de fabrication de billets. On va retrouver deux petits apprenants à la fabrication de billets et découvrir justement ce qu'est l'histoire de la monnaie, ce qu'est l'histoire du billet. Merci beaucoup Philippe Ginès, merci beaucoup Didier d'avoir été nos invités de ce dossier de l'écho des solutions. J'espère qu'on vous a donné envie. On n'est pas trop rentré dans les détails justement pour teaser et vous donner l'envie de venir jusqu'à la Citeco à Paris. Merci beaucoup Philippe Ginès, à très bientôt, au revoir.
Au revoir.
L'écho des solutions, Patrick Longchamp.
Et en attendant que l'atelier de fabrication de billets n'ouvre ses portes, je vous propose une seconde pause musicale dans l'écho des solutions avec Vianney et Kenji Girac. Après les Fous de Gaulois, nous allons écouter « Je suis fou ».
Certains pensaient qu'ils étaient seuls, abandonnés là sur le sol. On veut changer tout ça, mais oh là là, oh là là. Certains voudraient qu'on se déchire pour des billets, pour un empire. On veut changer tout ça, mais oh là là, oh là là. Et toi, qui a troqué le jeu contre le nous,
j'y donnerai le monde sans le sou. Ici-bas, tu es fou. Et toi, tu tends la main vers celui qui n'a rien, sans en vouloir à celui qui a tout. Si pour ça, tu es fou, je suis fou. Penser qu'il dérangeait, trop différent, trop à côté. On veut changer tout ça, mais oh là là, oh là là. Et oublie les gens qui nous séparent, il est temps qu'on se répare. Que tous les fous se préparent sur la ligne de départ. Parlez pas de complot, et l'autre il l'abandonne. On va déjà se changer soi, oh là là. Et toi,
c'était Kenji Girac et Vianney dans Je suis fou, et nous on pousse les portes de cet atelier de fabrication de billets très particulier. Ce sont nos 7 minutes pour changer le monde depuis la Citeco à Paris.
7 minutes pour changer le monde, l'écho des solutions.
Tu as choisi ton dessin? Tu veux faire un cheval?
Pas trop grand.
Alors, ouais, regarde que ce soit pas trop grand. Non, c'est bien.
Ça va aller?
Oui, c'est bien.
Je prends un crayon.
Tu prends un crayon, oui. Tu sais comment ça marche?
Oui.
C'est pas grave si je fais pas les petites taches.
Bah, si t'as pas envie que ton serpent il ait des taches, t'es pas obligé de mettre les taches.
Mais en plus, si je le ferais, ça allait être dur.
Voilà, et on continue notre petite visite de la Citeco qui se trouve ici à Paris, dans un hôtel particulier qui fut le siège de la Banque de France il y a quelques années, enfin une des succursales de la Banque de France pour être très précis. Je suis avec Solène qui est médiatrice dans ce musée, la Citeco, et qui anime un atelier de fabrication de billets. Alors, on va faire de la fausse monnaie pendant quelques instants. Bonjour Solène.
Oui, bonjour.
Merci beaucoup de nous accueillir dans cet atelier. Alors vous avez quelques enfants, c'est un atelier qui est ouvert, si je me souviens bien, à partir de 6 ans, pour ces enfants à partir de 6 ans, tous les mercredis après-midi.
Oui.
Et tous les jours des vacances scolaires.
Oui, c'est ça, tous les mercredis à 15h. Donc c'est un atelier qui accueille des enfants à partir de 6 ans, dans le but de leur expliquer un petit peu l'histoire du billet, et également son iconographie. Donc il y a une partie visite, puisqu'on a une salle des trésors ici à Citeco. On fait une petite visite d'une demi-heure comme ça pour retracer l'histoire du billet. Mmh. Et ensuite, il y a une partie atelier d'une heure où les enfants peuvent à leur tour faire leur propre billet factice.
La salle au trésor qui se trouve dans l'ancien coffre de cette succursale de la Banque de France. Un endroit peut-être un peu magique pour commencer à devenir...
Alors,
c'est pas un peu problématique d'apprendre aux enfants à être faussaires dès le plus jeune âge?
Alors, ce sont des billets factices, donc évidemment, ils ne pourront pas les réutiliser. Et en plus, ils font leur propre billet avec leur propre iconographie, donc évidemment très éloigné des billets qu'on utilise.
Bien sûr, bien évidemment. Quelle est l'idée de cet atelier? Qu'est-ce qu'on a envie de transmettre aux enfants autour de cet atelier de fabrication de billets, d'apprendre à fabriquer des billets?
Eh ben, on montre une des facettes de la monnaie, en se concentrant plus exactement sur la monnaie fiduciaire, donc le billet. En expliquant un petit peu comment il est apparu, puisqu'il n'est pas apparu tout de suite dans nos sociétés. De cette manière, ils peuvent déjà s'approprier un petit peu le billet. C'est un objet qu'on utilise tous les jours, c'est une ressource.
Alors, qui est appelé à disparaître de plus en plus. On est de plus en plus sur une monnaie scripturale, électronique, et même le chèque commence un peu à disparaître. Alors vous commencez dans ce coffre, et qu'est-ce que vous leur apprenez justement l'histoire des billets, c'est ça?
C'est ça. Alors on commence déjà par montrer que les billets ne sont pas apparus tout de suite dans nos sociétés. il y a déjà eu ce qu'on appelle des proto-monnaies. Donc, c'est les premières formes de monnaie qui ont existé. C'était des objets, en fait, à l'origine, qu'on utilisait comme monnaie, par exemple.
Ce qu'on appelait le papier-monnaie à l'époque, c'est ça ?
Alors, non, vraiment non, des objets. On a des coris, par exemple. Mmh. C'était des petits coquillages qui étaient beaucoup utilisés. Ça pouvait être des bijoux, des perles, etc. Puis on est passé à la monnaie, ce qu'on appelle divisionnaire, donc qui est caractérisée par le métal, donc les pièces métalliques. Et après, on est passé plus tard au billet.
Donc, le premier billet, c'est l'apparition est prévue quand
Alors, le premier billet, c'était en Chine. Si je dis pas bêtise.
Non, c'est... le premier billet, c'était
au 9e
en tout cas,
siècle,
c'était pas en France, en tout cas.
Non, c'était en Chine, parce que ce sont les Chinois qui ont inventé l'imprimerie. Et ensuite, en Europe, c'est apparu en Suède, dans un premier temps.
Alors là, on a le petit Victor qui est en train de fabriquer son billet. Tu veux venir, Victor, dire et nous expliquer ce que tu fais sur ton billet ? Qu'est-ce que tu as choisi comme, comme symbole de ton billet ?
Un serpent.
Un serpent ? Pourquoi le serpent ?
Parce que j'aime bien.
Ouais. Et alors, qu'est-ce que tu fais là, maintenant ?
Je mets du scotch autour pour faire joli.
C'est ce qui va permettre d'encadrer le billet, c'est ça,
oui.
Solène ?
Alors, c'est pour reproduire la bande holographique qu'on trouve sur nos billets.
La fameuse bande un peu dorée.
C'est ça, un petit peu douce sous les doigts.
Ouais, et qui brille.
Exactement. Donc là, il a choisi un scotch pour reprendre un peu le principe de la bande holographique qui est un petit peu dorée, un petit peu brillant. Voilà, il a choisi le rouge.
Ouais. Et maintenant, il doit le mettre dans une petite machine, c'est ça ? Une petite,
Alors non, ça, c'est deux choses différentes. Là, il va directement le coller sur son billet. Regarde, tu peux le coller ici.
Voilà, donc tu le colles de manière dans la hauteur. Voilà, le petit,
exactement,
la petite bande.
Donc, ça constitue la bande holographique.
Voilà.
Super.
Bravo.
Et donc maintenant, on va passer au filigrane.
Alors, c'est quoi le filigrane ? Expliquez-nous à quoi il servait le filigrane sur un billet et à quoi il sert.
Alors, tu te souviens ce que c'était le filigrane ?
Victor ?
C'est pour faire un peu des motifs, un peu comme ça.
Alors, non, le filigrane, c'était la tête de la dame, tu te souviens ? La princesse, comment elle s'appelait ? Princesse Europe.
Princesse Europe.
Hein. Voilà. Donc c'est un élément du billet qu'on peut voir quand on met à la lumière. Exactement, en transparence.
Et qui permet de rendre le papier infalsifiable. C'est ça l'idée du filigrane à la base ?
Exactement, et c'est un peu l'idée qu'on reprend dans l'atelier. En fait, à la fin de la visite, on leur montre dans la salle des trésors une vitrine dans laquelle on a des billets d'aujourd'hui. Donc... qu'on utilise en France, des billets de 10 euros, 100 euros. Et on analyse un petit peu ensemble, on observe ce qu'on peut voir sur nos billets, et ce qui permet notamment de sécuriser le billet, voilà, de les rendre infalsifiables, effectivement. Donc ils reprennent ici en atelier tous ces éléments après pour faire leur propre billet.
Et alors ça, c'est la machine, là on a une machine, une sorte de petite imprimerie, c'est la machine à faire les filigrammes.
Exactement, c'est une des machines qu'on a dans cet atelier. On peut faire un filigrane ici en relief.
Merci beaucoup Solène de nous avoir accueillis dans votre atelier. C'était une belle expérience en tout cas. On leur dit aux auditeurs que si jamais ils ont envie de venir avec leurs enfants faire un atelier de fabrication de billets, ils peuvent. Il est temps donc de quitter la Citeco qui se trouve à Paris, place du Général Catroux. On a évoqué cette cité, on a visité l'exposition dédiée à l'économie au travers de l'œuvre de Uderzo et de Goscinny et de ceux qui ont repris le crayon plus tard. Nous, on se retrouve très prochainement sur RCF pour une prochaine émission de l'Écho des Solutions. D'ici là, portez-vous toutes et tous très très bien. On se retrouve aussi sur les plateformes de podcast tous les vendredis 17h sur rcf.fr et 14h le samedi sur toutes les antennes locales. Voilà, merci beaucoup à vous toutes et à vous tous. À très bientôt. Au revoir. We'll